Salut, bonsoir, bienvenue sur les ondes de Boulevard 102.1 Québec, en espérant que vous ayez passé une belle journée. On va certainement passer un excellent 60 minutes ce soir, puisqu'on parle de chasse et de pêche avec le président, directeur général et concierge de groupe Aventure Chasse-Pêche. Son nom, c'est Martin Bourget, c'est un ami, je l'aime. Salut Martin!
Salut toi, concierge prend tout son sens ces temps-ci.
Ben oui, mais dis, quand on jase avec des gens, ils nous disent « Ah, mais les gens en affaires font de l'argent, ils font de l'argent, ils font de l'argent. » Puis moi, quand je parle avec des entrepreneurs, c'est « Ben oui, il y a peut-être l'argent qui vient avec le travail, mais ils font tout de A à Z. » Et bien souvent, quand tu calcules leur taux horaire, c'est souvent en bas du salaire minimum. Mais ces gens-là sont chanceux.
Hey, on gagne 85 sous de l'heure, là, seigneur! C'est pas mal à ça, là!
Ouais, mais vous êtes chanceux. Parle-moi un peu de Groupe Aventure Chasse-Pêche. Qui vous êtes? Pourquoi on entend parler tant de vous?
Ben, écoute, il faut remonter loin dans l'histoire. Hein. Si on parle du magazine, on remonte 32 ans à l'arrière. Denis Lapointe, avec des collaborateurs dont Mario Huot, etc., fonde un magazine qui s'appelle, à l'époque, Québec Archer, qui était vraiment orienté sur la chasse à l'arc au Québec. Au départ, ils ont un très bon succès. Ils vont changer, je ne me trompe pas, 2016 dans ce coin-là pour Aventure Chasse-Pêche. Le Denis engage une équipe rédactionnelle. Puis assez rapidement, ils vont aller compétitionner l'autre gros magazine qu'il y a en place qui s'appelle Sentier Chasse-Pêche, qui lui a 50 ans d'histoire. Mais rapidement, ils se démarquent en faisant... Tu sais, quand il parlait, par exemple, d'une arme à feu ou d'une arbalète ou d'un couteau, comme en product review dans le magazine, c'était des fois des centaines d'heures de tests sur le terrain, puis ils sont vraiment démarqués avec ce genre de tests. Donc, moi, je suis rentré dans le mélange pas mal plus tard comme président du groupe Aventure Chasse-Pêche, mais j'étais déjà animateur d'une émission qui s'appelait à l'époque Loisirs Chasse-Pêche, qui, elle aussi, a beaucoup d'histoires, beaucoup de bâtisseurs, dont Sylvain Lessard, dont les Rois, Mathieu Roy, Claude Roy, la gang des Amants de la nature aussi. Quand moi, je suis rentré comme président, bon, on a comme racheté les droits de production de l'émission. On a changé le nom de l'émission pour Aventure Chasse-Pêche. Puis aujourd'hui, ben, tu sais, on est beaucoup plus une plateforme médiatique ou un média qu'une émission comme telle parce qu'on a quatre pôles médiatiques sous lesquels on va diffuser de l'information. Et on est rendu aujourd'hui titulaire, on va dire entre parenthèses, de partnership avec l'ensemble des grands manufacturiers dans le milieu. Mais on laisse toujours une grande partie, c'est-à-dire à peu près 25% de notre diffusion ou de notre atteinte médiatique à la faune, la conservation, les jeunes dans le domaine, les initiatives fauniques, etc. Parce qu'on pense, avoir raison dans le fait que si on supporte ces initiatives-là, qu'on supporte la relève, qu'on supporte la conservation, bien que l'ensemble de ces activités-là de récolte animalière, de plein air, d'observation d'oiseaux vont perdurer dans le temps, qu'on donne à peu près 25% de toutes nos tribunes à ces causes-là. Et puis, je pense que ça fait partie des raisons pour lesquelles, avec le fait qu'on chasse et on pêche comme monsieur, madame, tout le monde et non pas comme des grands professionnels, nous, on est des animateurs, on est des chroniqueurs qui vont chercher des professionnels pour venir parler du sujet, pour venir mettre de l'avant les différentes préoccupations fauniques. Mais tant aussi longtemps qu'on va demeurer comme ça au niveau des chasseurs-pêcheurs et qu'on va mettre la faune de l'avant, j'ai l'impression qu'on fait notre job pour la pérennité. J'ai l'impression qu'on va rester en vie en faisant ça. C'est un peu ça qui est le groupe. Beaucoup d'autres projets alentour de ça, ça va exploser bientôt. Là, vous allez tout voir ça.
Mais quand tu dis, nous autres, on est des animateurs, on est des passionnés de chasse et de pêche, on fait venir des professionnels. Quand est-ce qu'on peut se considérer comme professionnel? Tu sais, toi, tu fais de la chasse depuis des années et des années, tu fais de la pêche depuis des années et des années. Oui. Quand est-ce que tu vas pouvoir dire « je me considère comme étant un professionnel »? Moi, à mes yeux, à moi, t'en es un, là.
Essentiellement, on qualifie quelqu'un de professionnel quand il gagne sa vie avec l'activité qu'il mène. Donc, on pourrait dire, nous autres, qu'on est des professionnels. Maintenant, c'est un choix personnel que pas prendre la chaise de professionnel. Je veux demeurer un peu connaissant dans tout, mais expert dans rien. Mais c'est clair que à tourner 26 émissions de télévision sur le terrain par année, donc à être 26 semaines pleines dans le bois, à faire des activités de chasse, de pêche, d'observation, à faire 4 magazines par année, des médias sociaux, puis plein d'autres médias, on acquiert énormément de connaissances. Mais je me plais souvent à dire que l'auditeur moyen ou le lecteur moyen qui achète notre magazine ou qui consomme nos émissions a probablement plus d'années d'expérience que n'importe qui en gagne chez nous en termes de chasse et de pêche. En termes de jours par année de chasse et de pêche, on en a énormément, donc on va beaucoup apprendre sur le terrain. Sauf que tu as dans l'industrie Je vais prendre des exemples. Michel Therrien, qui sont excessivement spécialisés au niveau de l'orignage. Jamais je rivaliserai dans la livraison, par exemple, d'une conférence sur l'orignal avec un Michel Therrien ou sur le poisson avec un Daniel Robitaille. C'est des gars qui ont des connaissances très, très, très pointues. J'ai une facilité à apprendre, j'ai une facilité à retenir les choses, j'ai des connaissances générales qui sont quand même très bonnes, puis ça me permet de, je vais dire ça comme ça, encore mieux choisir l'équipe qui m'entoure, qui fait qu'on a de l'expertise, de qui j'apprends beaucoup en termes d'expertise. Mais je me réserve le droit de me conserver une place d'animateur et de chroniqueur, parce que les vrais gros pros, c'est ceux qui vont, dans ma tête à moi, vouer une carrière dans une espèce animalière ou un créneau bien particulier, puis qui vont développer énormément de connaissances. Les vrais experts dans le domaine des poissons, tu as ceux qui capturent, des Daniel Robitaille de ce monde, Félix Goulet, etc. Puis on a aussi des ressources comme Oliver Lacanus ou encore Echo Bléard, qui sont des gens qui vont dans les rivières, découvrent des nouveaux poissons, font des planches anatomiques, puis vont nommer les poissons. Moi, pour ça, un ichtyologue, on appelle ça un ichtyologue, ça, c'est un expert. Moi, j'apprends de lui, donc je relate l'information. Fait que je me garde le luxe, de garder une chaise de chroniqueur puis d'animateur parce que ça ne m'implique pas de toujours absolument tout connaître sur la coche. Ça me permet, ça me donne le luxe de dire, ben je vais consulter mon expert, je vous reviens.
Ben c'est bon, mais c'est important de faire la différence aussi entre un animateur puis un expert, là, puis tu l'as bien fait. Hier, j'avais une question pour toi que j'avais ramassée d'un auditeur qui aime bien t'entendre sur les ondes de Boulevard 102.1, puis je me suis dit, ben là, on n'a pas eu la chance de se jaser hier parce qu'on était, on avait des trucs à faire chacun de notre côté, mais je me suis dit, je vais y reposer la prochaine fois, puis ça donne que c'est ce soir. C'est quelqu'un qui veut s'initier à la chasse, mais à la chasse à l'arc. Et il y avait, au début, il s'était informé pour ce qui est des armes à feu, puis il trouvait ça peut-être un peu plus compliqué, les armes à feu. Sa conjointe n'était pas d'accord à ce qu'il y ait des armes à feu à maison, mais là, il a négocié, puis ils en sont venus à un terrain d'entente, c'est-à-dire l'arc. Qu'est-ce que ça représente apprendre à chasser avec l'arc? Les lois, les règlements, de quelle façon on apprend? Y a-tu des cours d'arc qui se donnent dans ce milieu-là pour apprendre à chasser convenablement puis toucher la cible puis de savoir aussi où est-ce que je tire sur un orignal, tu sais, quand je veux le chasser à l'arc?
Bien, définitivement. Au départ, au niveau réglementation, tu dois passer un cours. Donc, on va sur le portail de la Fédération québécoise des chasseurs-pêcheurs. Il y a une section sécurité nature. On va aller dans les cours et on va aller voir les disponibilités de cours et on peut passer le cours pour les engins de jet à de flèches, donc arc et arbalète. On peut aller passer le cours en ligne, littéralement. Donc ça, c'est le premier processus au travers duquel tu vas passer. Ça va te donner sur ta carte de chasseur l'accréditation comme de quoi tu as passé le cours à l'arc. La deuxième étape, c'est pas tout le monde qui l'a fait. On peut apprendre par soi-même en tirant d'une belle paille sur le terrain en arrière, mais il y a des clubs de tir à l'arc dans presque toutes les municipalités ou à peu près. Que tu sois dans Portneuf, que tu sois dans Québec, les archers de la vieille capitale, le club de tir à l'arc à Portneuf à côté du centre de curling, il y a énormément de clubs de tir comme ça qui vont te permettre de pratiquer sur des cibles animalières 3D qui vont amener en même temps à la deuxième partie de ta question. Où est-ce qu'on tire sur un animal? Avec les cibles animalières 3D, avec les circuits 3D, parce que l'été, il y a même des circuits avec des cibles animalières 3D dans le bois, littéralement, il y a des clubs qui offrent ça. Et la cible sur l'animal 3D va être clairement identifiée et définie. Parce qu'au contraire on va prendre une carabine, par exemple. Une carabine, tu mets ton œil dans la lunette de visée, puis il y a un X. Tu mets le X à la bonne place, ça part, puis ça s'en va là. Si tu grouilles pas, là, ça va aller là. L'arc, il y a aussi une mire dessus. Mais il y a une partie qui est très calcul mental rapide parce que l'effet de la gravité va porter une action beaucoup plus rapide sur une flèche que sur une balle. La balle va rester rectiligne lorsqu'elle sort d'une carabine jusqu'à très, très loin. La flèche, elle, commence à descendre beaucoup plus rapidement. Donc, la répétition du tir à la cible pour un archer est excessivement importante parce qu'il va naturellement, un peu comme quand on fait des arts martiaux, on va faire un kata 100 fois pour l'apprendre, on va le faire 1000 fois pour bien le faire et 1 million de fois pour le maîtriser. Ben, c'est ce qu'on va dire. Il y a une mémoire musculaire qu'on va aller chercher, puis il y a un réflexe inné qui va se créer entre le cerveau puis les muscles au niveau de l'ajustement du tir, dépendamment de la distance à laquelle on est. Alors c'est une aventure qui est beaucoup plus je dirais, noble et périlleuse que d'apprendre à tirer, à aller récolter un animal avec une flèche qu'avec une balle. C'est définitif. Mais c'est très noble dans le fait que on se donne plus de misère, mais on va faire une récolte qui est totalement différente. Tu sais, dans les périodes de chasse, l'arc et l'arbalète sont à part de la chasse à la carabine. Donc, il y a une période qui est réservée à l'arc avant la carabine, où est-ce que les archers sont dans le bois. Puisqu'il n'y a pas d'armes à feu, ils n'ont pas besoin, dépendamment des territoires. S'il y a des territoires qui sont ouverts à l'arme à feu alentour, c'est différent. Mais s'ils sont sur des territoires où est-ce qu'il n'y a pas de chasse à l'arme à feu alentour, ils n'ont pas besoin d'avoir de dossard sur le dos. Ça donne lieu à des scènes, par exemple, à la chasse à l'orignal, où est-ce que les gars vont s'habiller en polar noir pour aller à la chasse à l'orignal. Ils vont caler puis ils vont s'approcher beaucoup plus proche de l'orignal parce que, de toute façon, le tir à l'arc nécessite une proximité qui est beaucoup plus grande. Et c'est un peu ce que recherchent les archers, de toute façon. Ils veulent une période étendue qui leur donne plus de chance à la chasse, donc ils ont une semaine de plus. Mais il y en a beaucoup que c'est la recherche de cette proximité-là avec la bête, qui est une récolte qui est beaucoup plus... Ils vont dire que c'est une récolte beaucoup plus valorisante, parce qu'on est allé vraiment comme amadouer la bête. On a donné le même nombre de chances à la bête qu'à nous. Et là, certains vont dire, t'as juste à faire ça à main nue si tu veux faire ça. Non, mais on va s'en faire. On est beaucoup plus proche des engins de chasse traditionnels ou des engins de récolte traditionnels avec un arc. Puis il y en a qui le font carrément à l'arc traditionnel. Un arc traditionnel, pas de poulie, pas de mire, pas rien. On a vu Ken Taylor, entre autres, dans un film avec Michel Therrien qui s'appelle Grizzly, récolter un grizzly à l'arc traditionnel comme ça, là, littéralement dans le nord. Là. Alors, tout se fait. Définitivement, il s'agit de bien se renseigner. Le secret dans la chasse à l'arc, c'est de tirer des milliers et des milliers et des milliers de flèches, puis pas tout le temps les deux pieds au sol face à la cible. Hein. Souvent, ce qu'on va voir de plus en plus, les archers vont s'installer avec une cible dans le bois, puis ils vont marcher et faire un arrêt pour tirer, ou ils vont monter dans leur mirador pour tirer à angle, pour vraiment que le cerveau enregistre. Quand on tire à angle du haut vers le bas ou du bas vers le haut, ben ton point de mire n'est pas le même. Il va y avoir une différence d'une couple de pouces. Ces chasseurs-là vont pratiquer énormément, ce qui amène beaucoup de noblesse dans ce genre de récolte-là. Donc, c'est réglementation, c'est le cours. La pratique, c'est au travers des clubs, sinon donc, sur le terrain chez vous. Okay.
Donc, c'est un cours obligatoire. Oui. Est-ce qu'on doit faire une demande spéciale à la Sûreté du Québec? Non. Parce que... Non, OK.
Non, parce que c'est pas une arme à feu. C'est un engin de jet, mais c'est pas une arme à feu. Donc, il n'y a pas de rien au niveau légal, là, civil ou fédéral.
OK. Puis, tu dis que... Parce que c'est drôle, hein, quand on n'est pas dans ce domaine-là, on a l'impression d'avoir jamais vu un club d'arc, de tir à l'arc. Là. Toi, tu me dis qu'il y en a plein. Tu m'en as nommé quelques-uns tout à l'heure. C'est quand même, oui. c'est quand même incroyable le nombre d'endroits où il y a pour pratiquer l'arc. Puis moi, j'en ai jamais vu de ma vie, alors que je reste dans la grande région de Québec depuis plus de 40 ans.
Écoute, tu restes dans la grande région de Québec, tu as pensé à la base de plein air de Sainte-Foy, on y allait quand on était scout pour tirer à l'arc. Ils ont refait les pas de tir à l'arc dernièrement. Il y a des clubs de tir olympiques qui se pratiquent à la base de plein air de Sainte-Foy. On a nous autres, Christina Sauvageau, qui fait partie de notre gang. Christina, elle a fait les Jeux du Québec. Elle est chroniqueuse chez nous, elle a travaillé avec nous autres chez Aventure Chasse-Pêche. Elle coach encore l'équipe des Jeux du Québec. Souvent, quand on a des archers qui commencent, comme Jay Marceau. Jay Marceau qui va cette année s'adonner au... et on parle du même Jay Marceau qui t'a dessiné dessus. Eh bien, c'est Christina qui l'a accueilli au club de tir de Portneuf. J'étais là pour aller ajuster son arc et s'assurer de commander les bonnes flèches. On a beaucoup d'athlètes de tir à l'arc de niveau olympique ou de niveau Jeux du Québec ou provincial au Québec. Ils ont des clubs et souvent, tu en as plusieurs dans ces clubs de tir-là qui font du tir à la cible, qui sont aussi des chasseurs. Puis de plus en plus, il y a beaucoup de chasseurs à l'arc à l'Orignal et au Chevreuil, mais on voit de plus en plus de chasseurs à l'arc à la Perdrix. Et ça, c'est un autre niveau de défi qui est pas mal intéressant. Le principe est le fun aussi. Quand tu chasses au gros gibier avec un arc, tu vas avoir une pointe parce que, alors qu'à la carabine, tu vas terrasser un animal par le choc hydrostatique que la balle va faire en rentrant dedans, avec un arme de jet, tu vas mettre fin au jour de l'animal par hémorragie. Donc, tu as une grosse pointe avec des couteaux très, très, très tranchants pour couper des artères ou atteindre le cœur ou quoi que ce soit. Alors qu'à la perdrix, C'est pas une pointe pointue que tu as. C'est ce qu'on appelle un assommoir. Ça ressemble à un trèfle en grosse broche. Ça n'a rien de balistique parce que ça pogne dans le vent à côté d'une embarrure. On va remplacer les plumes standards de la flèche par des gros froufrous qui vont diminuer la vitesse de la flèche dans l'air. Puis c'est un assommoir qui, au moment de l'impact avec la perdrix va mourir là. Mais le défi de chasser à l'arc à la perdrix, parce que la cible est beaucoup plus petite, évidemment, pas mal intéressant, mais ça va tellement bien avec la perdrix où est-ce que tu peux te promener dans le chemin tranquillement en parlant avec tes chums. En plus, c'est un engin qui fait pas de bruit, c'est pas un gros paf qui dérange la tranquillité. C'est trippant. Alors moi, je vous encourage, même si vous êtes chasseur à carabine, de peut-être développer des skills à l'arc pour faire ces chasses-là. Des fois, vous donnez un petit peu plus de temps dans la période de chasse, non? Mais ça vous donne quand même une semaine de plus là, au début de la période de chasse, entre autres à l'orignal, pour avoir la chance de récolter votre viande pour la famille.
Okay, mais juste la chasse à la perdrix, je veux dire, juste à l'arme à feu, je trouvais ça compliqué. Quand je vais me promener dans le bois, j'en croise des perdrix, mais bien souvent, ils m'ont vu pas mal avant que moi, j'y vois. Puis quand moi, j'y vois, c'est parce qu'ils décollent puis ils s'en vont. Il faut que tu sois extrêmement attentif pour réussir à aller chasser, puis réussir à les voir de un, il faut que tu sois très attentif. Après ça, il faut que tu les tires. Tabarouette!
Ben écoute, il y a aussi le fait qu'il y en a qui sont nés génétiquement pour être végétariens, d'autres pas, là. Oui. Puis tu sais, dans des secteurs où est-ce qu'il y a beaucoup de trafic humain, ils vont te spotter beaucoup plus rapidement. Il y a des réserves fauniques dans lesquelles les gens passent d'un bord à l'autre de la réserve faunique pour aller travailler l'autre bord. La perdrix, ça fait un kilomètre qu'elle sait que t'es là, puis elle sacrait son camp dans le bois. C'est pour ça que souvent, on va sortir des chemins principaux, puis on va aller en quatre roues. Je sais pas qu'est-ce que le quatre roues a envers les animaux, mais ils vont déguerpir beaucoup moins rapidement quand on arrive en quatre roues que quand on arrive à pied. Fait que souvent, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre des petits chemins en quatre roues. Quand on voit une perdrix, on n'éteint pas le quatre roues. On le met sur park. On débarque du 4 roues, on charge l'arme, parce qu'elle était supposée être déchargée sur le 4 roues selon la loi. On charge l'arme, on fait notre approche, puis on fait notre récolte. Littéralement. Puis, pour vrai, ça donne une chance supplémentaire de laisser le 4 roues virer. Là, il y a comme un... Et pendant que ça vire, ça, c'est comme pas dangereux. Là. Mais non, je te dirais que...
Ou ça couvre le bruit. Sont peut-être plus attentifs au bruit du 4 roues qu'au bruit de tes pas qui s'approchent.
Écoute, pourtant, ils nous regardent carré dans les yeux, mais ils ont l'air d'être moins effarouchés quand on laisse le quatre roues virer. On t'invitera, ça serait le fun de te faire, de faire vivre ça.
Parce que quand tu marches dans le bois, puis il y a le gros silence, puis il y en a une qui décide de s'envoler, là, sacrifice, on dirait que le cœur te fend en deux. Là. Qu'est-ce qui vient de se passer là? Les distances que tu peux couvrir avec l'arc, est-ce que c'est énorme?
Bien, ça dépend ce sur quoi tu tires, ça dépend de la puissance de ton arc aussi, mais tu sais, je veux dire, 25-30 pieds, là, c'est pas mal les plus loin auxquels on va pratiquer. On va pratiquer, généralement, quand on pratique à l'arc, on pratique 10, 20, 30, 35 dans ce coin-là. Il y en a qui vont monter à 40 pieds, dépendamment de la puissance de leur arc. Mais je dirais que moi, là, de manière... Je serais à l'aise à 25-30 pieds, je suis à l'aise sur bien des gibiers, là, si tu as un arc qui est dans le coin de 70 livres en montant.
OK, puis là, c'est la question plate. Est-ce que tu as plus de chances de ne pas tuer la bête quand tu tires dessus avec une arc versus une arme à feu?
La réponse initiale, si on prend d'un livre le potentiel meurtrier d'une arme à feu versus un arc, l'arme à feu devrait avoir un potentiel meurtrier beaucoup plus élevé. Donc, on devrait mettre à mort plus rapidement avec un arme à feu. Mais dû au fait que les archers pratiquent plus que les tireurs à l'arme à feu, ben on inverse un peu les choses. C'est un archer qui pratique beaucoup va viser beaucoup plus juste et va faire mouche plus régulièrement qu'un tireur à la carabine. À que tu viens d'inverser la théorie.
OK, mais tu vois, ça me surprend beaucoup parce que je me disais, comme il y a plusieurs choses qui rentrent en jeu, parce que je comprends qu'avec une balle, la vitesse du vent, le vent de travers, tout est la distance, tout est calculé, mais comme tu l'as dit en début d'introduction, quand on a parlé de chasse à l'arc, c'est plus noble, mais ça demande pas mal plus de rigueur, plus d'acuité, plus de pratique... Puis il y a plus de chances que tu te plantes aussi. Là. Moi, à me risquer, exemple, je m'en vais à la chasse avec toi, tu me dis, Yann, t'as le choix des armes. J'aurais eu beau, mettons, je pratique pendant 30 jours l'arc, je vais toujours prendre l'arme à feu parce que j'aurais peur, à ma première chasse, de rater ma shot puis que l'autre, oui, il s'en aille avec ma flèche puis qu'il n'en meurt pas. Ce serait une catastrophe. Là.
Ben, moi aussi, je vais choisir l'arme à feu d'emblée. Mais c'est propre à chacun. J'ai énormément de pratique à l'arme à feu. En tir à la cible, en juste les tests qu'on me demande de faire sur des armes à feu pour mon métier, pour pouvoir écrire là-dessus après. Écoute, j'ai des appareils auditifs, puis c'est la CSST qui me les paye, et c'est dû au tir à la carabine mal protégé au niveau de mes oreilles, tellement j'ai tiré. Fait que je serais plus à l'aise de toute façon de prendre une carabine qu'un arc, parce qu'à l'arc, j'ai pas assez de temps de pratique. Mais, encore là, c'est un choix personnel, si je veux vivre une expérience, je vais aller à la chasse à l'orignal avec mon grand de 16 ans qui trippe pas tant sur... Il dit « Oui, papa, j'aime la chasse, beaucoup plus pour me faire plaisir que pour le faire. Je veux quelque chose qui est moins percutant dans l'expérience qu'il va vivre, puis je veux avoir de la proximité avec ma bête. Je vais probablement le faire à l'arc avec un soute noir en polar. » Tu sais, c'est un peu comme acheter une canne à pêche, dans le fond. On nous demande souvent, je m'en vais à truite, je prends-tu une extra light, une light, une médium ou une action rapide? Ça dépend de l'expérience que tu veux. Avec une light ou une extra light, tu vas prendre plus ton temps pour la rentrer dans la chaloupe, mais tu vas la sentir en tabarouette sur le bout de ta canne. Mais c'est plus périlleux. Ça se peut que tu l'échappes, ça se peut que tu la juges moins bien. Alors qu'avec une extra heavy, elle va rentrer en tabarouette dans la chaloupe, tu ne perdras pas, mais tu n'auras aucun feel. Ouais. C'est la même chose là. Ça dépend du feeling que tu vas avoir, puis... Il y en a qui vont dire, ça dépend du... Puis ça, c'est quelque chose qui se défend. C'est pas nécessairement mon opinion, mais c'est quelque chose qui se défend. Il y en a beaucoup qui vont dire, ça dépend du respect que tu apportes à la bête dans l'égalité, dans l'équité dans laquelle tu veux effectuer ta récolte. C'est-à-dire que à l'arc, tu as beaucoup moins de, on va dire ça comme ça, sur le papier théoriquement, de chances de récolte qu'à la carabine. Puis tu es beaucoup plus les pieds au sol, armes égales, somewhat, qu'avec une carabine. Donc, ça se défend aussi, ça, là. Tu sais, ça dépend des valeurs de chacun, puis tout le monde a le droit de voir ça comme ils veulent. Mais moi, je suis comme toi, c'est sûr que je vais choisir l'arme à feu. Ouais. Mais je suis habitué avec l'arme à feu.
C'est sûr. Mais c'est juste le trip de revenir aux sources à l'arc. T'sais. Quand je vois, je suis en train de regarder la série Vikings. Oui. Là, je les vois avec les arcs et tout ça, ça me fait halluciner. Il y en a qui chassent aussi, pas qui chassent, mais qui pêchent à l'arc.
Oui, beaucoup.
Tu vois ça, tu dis « OK, ben tu vois, c'est rare qu'on voit ça, mais ça se fait. » Tu sais. Toi, tu me dis qu'il y en a beaucoup qui le font, mais moi, j'en ai pas vu souvent des gens qui chassent à l'arc.
Oui, ben, as-tu déjà vu les...
Des gens qui pêchent à l'arc, c'est-à-dire?
As-tu déjà vu ces arcs-là?
Non, pas du tout.
L'arc pour aller à la pêche, première des choses, la flèche est attachée après une corde, évidemment. Puis cette corde-là est attachée après un moulinet qui est après l'arc, littéralement. Donc, la chasse la plus régulière, la pêche la plus régulière que tu vas voir à l'arc, c'est la pêche à la carpe, à l'arc, parce que la carpe, on peut l'avoir facilement, il y a très peu d'eau au-dessus de sa tête, donc les tirs sont plus faciles, parce que dans l'eau, ton point de fuite est biaisé un peu, hein. T'as une espèce d'effet au niveau visuel qui fait que tu dois viser, tu vises pas direct dessus parce que tu vas passer à côté. Ça fait comme une grosse lentille fish-eye, si tu veux. Mais t'as vraiment comme, tu tires avec ton arc puis t'as un moulinet après ton arc pour ramener ton poisson après. C'est trippant, ça, là.
Ben c'est oui, trippant. C'est trippant.
Là, de plus en plus, ce qu'on voit, là, que moi, ça me fait triper, là, ça part. Puis la dernière gang que j'ai vue, c'est une gang de filles. Là. Ils avaient loué un chalet, je pense, c'est dans une CEPAC XYZ ou dans une ZEC, peu importe. Là. Le matin, ils partent tous avec leur paddleboard. Fait que debout sur un paddleboard, ils s'en vont à la pêche, à la carpe, avec leurs arcs, debout sur le paddleboard. C'est assez particulier, mais c'est... Avoue que c'est trippant, là.
Ben oui, c'est trippant, mais c'est des outils qu'on n'utilise jamais. T'sais, moi, quand j'ai vu pour la première fois de ma vie un harpon, là, je me voyais déjà pratiquer la pêche au harpon dans un autre pays. Je pense qu'au Québec, on n'a pas nécessairement le droit de ce que
oui,
je comprends.
On peut. Oui.
OK. Mais tu sais, je me voyais, j'étais à Scuba Tech, je regardais les harpons disponibles, j'étais là, hey, je pourrais peut-être aller comme... aller à la pêche avec un harpon, ça fait mal, là. T'es en train de faire la plongée sous-marine, tu vois un gros poisson, tu te dis, bon, ben, c'est lui que je ramène pour super soir, pogne le harpon, ça va le chercher.
Ben, c'est sûr, ça peut être trippant, là. Tu sais, je veux dire, j'ai vu certaines rivières dans lesquelles l'esturgeon se fait avec ça, là. C'est quand même assez hallucinant, là. C'est gros en tabarouette, là. Dans le sud, évidemment, on le voit beaucoup plus souvent. Mais c'est un autre engin de pêche. Il y a l'espèce de sling hawaïen aussi qui existe. Il y a des gars qui font de la pêche en apnée à la sling hawaïen. Donc, si on prend en apnée, là, pas de bonbonne, il n'y a qu'un tuba, tu descends un peu. Puis à la sling hawaïen, ça se fait quand même assez régulièrement. Je ne connais pas la réglementation au niveau de la sling hawaïen, mais je sais qu'il y a plusieurs pêcheurs en apnée qui le font. Ils font de la chigan principalement, du brochet, des trucs comme ça dans les herbiers. Fait que, encore là, C'est une genre de volonté d'aller chercher encore plus de proximité parce que tu vois le poisson. Puis imagine, au mosquit ou encore au brochet, là, dans les herbiers, que cette grosse bébite-là, là, à sling, là, ça doit être assez hallucinant parce que quand ça décolle, ça, là. Là.
Ouais. Puis l'arbalète, est-ce que c'est aussi réglementé que l'arme à feu?
Non, non, c'est considéré comme. C'est considéré pas mal comme. Je dirais, là, moi, je vais dire ça overall, là, c'est pas mal considéré comme l'arc. Au niveau de la réglementation. C'est un cours, c'est un arme de jet, il n'y a pas de réglementation au niveau arme à feu qui t'oblige à les enregistrer dans quelconque registre ou à avoir une carte de possession, acquisition. C'est pas mal. Le seul danger, je te dirais, puis là, je me permets de bifurquer un petit peu, là, il y a les lois. Le seul danger, ce qu'on voit souvent, c'est que les gens qui se ramassent avec une arbalète entre les mains, puisqu'il y a une lunette de visée dessus, ils confondent souvent ça avec une carabine. Ils vont se permettre de tenter des tirs plus loin. C'est comme si ça dénaturait un petit peu la machine. La carabine, elle peut y aller à 400 verges, il n'y a pas de problème à 500 verges, 600 verges. L'arbalète, non. Le risque de blessure est quand même assez grand. Donc, les arbalétiers qui respectent leur distance vont faire de très bonnes récoltes et de très belles récoltes très nobles. Mais malheureusement, il y a une catégorie d'individus qui, quand ils mettent l'œil dans la lunette de visée, là, ils se transforment en sniper, puis là, ils s'imaginent que ça peut tirer très, très loin parce qu'ils ont une 400 pieds seconde ou des histoires comme ça. Là, ça peut être moins drôle. Je dirais que je suis plus arc qu'arbalète, okay. Définitivement. Si on parle des engins de jet, là, je suis plus arc qu'arbalète.
Puis l'arbalète, est-ce qu'elle couvre une meilleure distance que l'arc? Tout à l'heure, quand tu me disais, pour ce qui est de l'arc, c'était, exemple, entre 10 et 40 pieds. Là. Il y en a qui peuvent peut-être aller plus loin. Est-ce que l'arbalète peut aller deux fois, trois fois ça?
Oui, bien, on peut aller chercher un 50 pieds avec un arbalète sans trop de problèmes, même un petit peu plus dans le cas de certaines arbalètes. L'arc, je dirais que je me réserve. Moi, je vois à 30 pieds pas mal maximum. Là. L'arbalète peut aller plus loin que ça parce que c'est plus puissant. On peut aller dans le 60 pieds, on peut dépasser ça même parce qu'aujourd'hui, on est rendu avec des 400 pieds secondes, des 500 pieds secondes, là, des arbalètes qui sont hyper, hyper puissantes puis beaucoup plus faciles à traîner qu'avant. L'autre gros désavantage, c'est que c'est un ancre à bateau à traîner dans le bois. C'est accrochant, c'est gros. Mais encore là, ça, c'est mes intérêts personnels. J'aime moins ça. J'aime pas mal moins tout ce qui entoure l'arbalète, la traîner, l'entretenir, etc. Je vois, bah.
T'as-tu. Ça fait combien d'années que tu pratiques la chasse et la pêche?
Mon premier. Ben, la pêche, probablement que j'étais avec les culottes d'entraînement Pampers sur le bout du quai à Saint-Anicette, okay. À crier après mon père pour qu'il vienne décrocher les pare-chaudes des crapets que je poignais au bout du quai.
Fait que ça fait extrêmement longtemps, t'as passé énormément de temps dans le bois. T'as-tu vu la série, c'est drôle parce que j'en parlais ce midi avec ma gang, t'as-tu vu la série Alone sur Netflix où on débarque, mettons, je sais pas moi, une cinquantaine de personnes dans le Grand Nord avec absolument rien, on leur donne trois outils qu'ils peuvent ramener, puis on leur dit, ben, le dernier qui va nous appeler, c'est lui qui va gagner. T'as-tu écouté ça?
Ben écoute, moi, peut-être par intérêt là, personnel, j'ai peut-être plus vu Naked and Alone, là.
Mais ben ça, c'est n'importe quoi. Tu sais, je vais répéter ce que j'ai dit sur l'heure du midi, mais tu sais que moi, je règle beaucoup des problèmes à coups de violence.
OK, tu sais ça, toi.
Puis quand je me suis aperçu qu'il y avait beaucoup de maringouins, je me suis dit, un maringouin sur un testicule, tu peux pas régler ça avec la violence.
Non.
Fait que je me suis dit, seul et tout nu, je ne participerai jamais à ça.
Non, mais ça, j'ai vu ces émissions-là. J'ai vu ceux dont tu parles aussi.
C'est exceptionnel. Des gens qui développent des facultés qui font en sorte que tu peux les débarquer quelque part, puis dans deux, trois jours, ils vont être logés, ils vont se nourrir, ils vont vaquer à leurs occupations. C'est incroyable, ça, Martin.
Puis ça, il y a une grosse effervescence là-dedans. Ça va faire à peu près, je te dirais, 5-6 ans que c'est énorme. Allez voir la gang des primitifs, puis c'est peut-être des gens avec qui tu veux rentrer en contact, tu voudrais peut-être leur parler à un moment donné. Allez voir la gang des primitifs sur Internet, ils donnent des cours, entre autres, même des conceptions, là. Comment confectionner un camp dans le bois, comment confectionner tel outil, c'est vraiment ils sont très avancés dans leur science, on va dire ça comme ça, on va appeler ça de la science, même si c'est très, rudimentaire, parce qu'on apprend à faire avec les rudiments de base, mais ils sont très avancés, ils donnent des formations, là, des différents niveaux de formation, tu peux aller passer, je pense que c'est jusqu'à une semaine dans le bois avec absolument rien, avec eux autres en formation, là. On les a reçus en studio, nous autres, à la télé, là, pour parler de... Je me souviens pas s'il n'avait pas confectionné un chaudron bol, toute la patente pour faire à manger, puis avec les épices de la forêt, c'était fait un snack, là. C'est assez hallucinant qu'est-ce que vous faites apprendre aujourd'hui dans tout ce qui est art primitif comme ça. Là, il y a vraiment des formations qui se donnent là, de niveau très avancé.
Mais t'imagines-tu, Martin, si on initiait nos enfants en bas âge, que ce soit au primaire ou peut-être début secondaire, à justement ce genre d'activité-là? C'est-à-dire, regarde, nous, ce qu'on va te montrer, là, c'est la base de la vie, c'est-à-dire la chasse, la pêche, c'est de boire, de te loger et tout ça. On t'amène dans le bois, puis ta formation, c'est de te faire un camp, puis de te débrouiller pendant 2-3 jours. Ça serait tellement formateur pour nos enfants, puis les enfants capoteraient faire ce genre d'expérience-là.
Ben, j'aurais quasiment peur que le DPJ débarque aujourd'hui. Mais oui, tu sais, regarde ce qui se passe au niveau des mouvements scouts, puis au niveau des mouvements des de, cadets. Beaucoup de nos amis, moi le premier, j'étais dans les cadets jeunes, là, puis on avait beaucoup justement de camps en forêt de même, où est-ce qu'on faisait un bivouac, on faisait notre stock, on apprenait à tirer, on apprenait tout ça, puis etc. Regarde le taux de recrutement d'un corps de cadets aujourd'hui, là, il est nul à chier, là. Il n'y a plus rien, là, parce que les jeunes ne sont plus portés vers là, parce que ça les oblige à une discipline, puis on a modelé notre éducation pour les sortir de là, puis leur donner raison. Écoute, aujourd'hui, un jeune a le droit et la liberté d'argumenter avec n'importe quel niveau d'autorité sans aucun risque de réprimande. C'est même l'autorité qui va avoir peur des réprimandes si jamais il contre-argumente le jeune. Les mouvements scouts, moi j'étais animateur scout avec ma sœur puis deux de mes cousins dans le temps. Puis à un moment donné, il y a même eu une réforme où est-ce que c'est rendu qu'on ne pouvait plus aller pogner une couleuvre dans le bois ou une grenouille d'un marais pour leur montrer c'était quoi une grenouille. Il fallait le montrer dans le livre. C'est le moment où est-ce que j'ai commencé à décrocher complètement
ben,
de tout.
Je comprends donc. Comprends. C'est du gros niaisage tout le temps.
Fait que tu sais, ce que tu dis, ça serait génial, mais j'aurais à chienne que la DPJ débarque. Tu es en train de montrer à ton enfant être un barbare. Je veux dire, c'est
non, ça. Non, tu es en train de montrer à ton enfant la débrouillardise, Martin. Puis tu lui donnes des skills qui vont faire en sorte que, tu sais, ça arrive pas tout le temps, mais si un jour il se perd, il paniquera pas. Il va commencer à réfléchir à la place de paniquer. Tu sais, moi, de voir des gars comme toi, ben, comme les primitifs, arriver dans le bois, pis être capable de se faire une recette, quand connaître un peu sur les champignons, qu'est-ce qui est comestible, qu'est-ce qui l'est pas, qu'est-ce qui peut me faire triper pour la soirée. Bon, ça, c'est une joke. Mais, tu sais, tout ça, ça m'intéresse tellement, mais notre société s'est tellement éloignée de ça. On est tellement dans notre petit confort, dans notre logement ou encore dans notre maison, mais il y en a tellement plus à découvrir si on va dans le bois et on va passer un peu de temps avec des gars et des filles comme vous autres. Là.
Ben écoute, moi je te dirais, à large, là, mes enfants, mais même plus large, je serais même intéressé à mettre une coupe de scène dans un projet où est-ce qu'on approcherait les primitifs, qu'on irait chercher des jeunes par des concours, soit avec toi ou sur nos autres médias, peu importe, faire comme, OK, on part un trend. Et les jeunes fonctionnent beaucoup avec des trends aujourd'hui. On part un trend, on rend l'activité de formation primitive trendy, d'une manière ou d'une autre, puis on trouver un commanditaire là-dedans qui nous permet de mettre tout ça de l'avant, puis on amène les jeunes en bootcamp pendant des fins de semaine de même. Hey, je serais aux anges, mon gars, une affaire épouvantable. Je suis tellement d'accord avec toi. Puis, il faudrait donner une twist trendy à tout ça pour que les jeunes embarquent puis viennent chercher certaines notions. Puis, ça a l'air niaiseux, mais reprennent contact avec la terre, se mettent les mains dans la boîte, aient un peu de mouche d'en face. Ça me désole tellement de les voir à 6, 5, 6, oh, ce qu'on fait, oh, je sais pas, on va chiller. Finalement, à la fin de la journée, ils avaient fait quoi? Je sais pas, il n'y a personne qui était bon pour prendre une décision. Ça va concourir pour être premier ministre tantôt, ça, là. Non? Vous en rendez compte, là?
Ouais, mais tu sais, juste un camp d'été où les jeunes, à chaque semaine, partent, sont là la fin de semaine chez les parents, partent le lundi matin, puis reviennent le vendredi soir. Puis pendant cette semaine-là, ils ne font que vivre dans le bois, bâtir, chercher à manger, chercher à boire. Tout apprendre des trucs qui font en sorte qu'ils peuvent être seuls, puis même l'esprit de groupe aussi, mais surtout oui. Pas d'Internet, pas d'électricité, à rien, le rudimentaire, la base. Bon Dieu que j'aurais aimé ça, moi, que quelqu'un me prenne en main quand j'étais jeune. Mon père est mort jeune, fait qu'il n'a pas eu la chance de me montrer c'était quoi la chasse puis la pêche, mais t'sais, bon Dieu que j'aurais aimé ça, moi, à 12, 13, 14 ans, à embarquer dans ce type de camp-là où je pars pendant un mois à chaque semaine, je reviens la fin de semaine, puis je m'amuse dans le bois avec une gang que je connais pas, puis que j'apprends à découvrir. Ça doit être tellement formateur.
C'est à 100%. C'est tout simplement que, tu sais, ma vision de la chose, je veux pas être défaitiste, mais on a tellement éloigné l'éducation, puis qu'est-ce qui est trendy, puis qu'est-ce qui fait que tu rentres dans les normes sociales, puis dans les normes de look, puis etc., de ça, que Je te dis, là, moi, je mets des cents d'un projet de même. Demain matin, là, l'entreprise met des cents d'un projet de même. Là, ça fait partie du 25% qu'on veut redonner. Là. Mais il faudrait tellement, tellement travailler pour rendre ça trendy parce que les jeunes sont rendus loin de ça. Il y avait une production qui existait à la télé qui était un genre de intervention. Où est-ce qu'ils kidnappaient, pseudo-kidnappaient des jeunes en entente. C'est une entente avec les parents. C'est un jeune là, qui est vraiment décrocheur, consommateur de drogue, un junkie des jeux, etc. Là, il y a une équipe d'intervention qui débarquait puis qui, en parenthèse, le kidnappait devant son ordinateur. Puis là, il partait d'un avion de brousse puis il partait dans le bois avec. Puis là, il y avait, sur place, il y avait un travailleur social, il y avait des psychologues, il y avait tout ce qu'il y avait besoin. Puis les parents n'étaient jamais loin. Les parents étaient hébergés pas loin. Puis là, c'était comme un genre de bootcamp. Le jeune était dans le bois pendant 2 semaines, là. Pas de signal, pas rien. Mais tu regardais la mélancolie profonde des jeunes quand ils se rendaient compte que, mais là, vous m'avez arraché la vie du cœur, je vais mourir ici. C'était désolant de voir à quel point, là, lui, là, sa vie était perdue parce que là, pour les 5... Écoute, je ne peux pas me passer de ma connexion Internet pour 5 minutes. Là, tu me parles de 15 jours. Je suis mort. Ma réputation va être sur le derrière. Mais... Tu sais, dans le temps, on avait des votes sur « Do you look good? » Là, ça ressemble quasiment à ça aujourd'hui. Là, j'aurais plus de « dead well » sur mes réseaux sociaux. Puis c'était malade de voir à quel point les... Par contre, quand le jeune finissait par craquer solide, puis que là, tu voyais le travailleur social puis le psychologue qui se mêlait de la patente, puis là, les parents fatigués, ils n'étaient pas loin de venir intervenir. L'autre bord de ça, quand le soleil se relevait le lendemain matin, là, le jeune se ramassait dans une introspection qui était totalement différente parce que là, il était dénudé. Tu sais, on dit souvent, puis je m'inspire souvent des arts martiaux, les examens souvent qu'on va faire aux jeunes dans les arts martiaux au niveau avancé, aujourd'hui, on n'a plus le droit d'aller à ce point-là, là. Mais dans le temps, le but, c'était de d'essouffler les jeunes puis de les épuiser physiquement à un point où est-ce que... Écoute, les jeunes passaient proche de vomir dans le temps, là. Les épuiser à un point où est-ce que toutes leurs barrières de la vie de tous les jours tombaient. Toutes leurs appréhensions, les normes sociales. Dans le fond, là, ils se ramassaient tout nus face à eux-mêmes. Puis là, le vrai examen commençait. Parce qu'on les mettait face à eux-mêmes, puis on leur faisait franchir un niveau. On leur vendait pas une ceinture pour le prix d'une session. On leur faisait franchir un niveau. Ça, là, cette cassure-là, avec un réveil, avec un nouveau soleil le lendemain, qui se voient eux face à eux-mêmes, puis qui peuvent plus s'accrocher à « c'est de la faute de, oui, mais moi, la société m'a, mais quoi que ce soit, eux face à eux-mêmes. » J'ai trippé regarder cette émission-là.
Je comprends.
Est solide, solide, parce que je revoyais le temps où est-ce qu'on avait le droit de faire des vrais examens aux arts dans les arts martiaux, puis que le jeune était vidé de tout sens, qu'il n'y avait plus aucun accroc aux frontières du quotidien, aux normes sociales. Là, il se retrouvait full open face à lui-même. Là, la demi-heure qui restait à la fin de l'examen, là, on était capable d'y faire des conscientisations qu'on pourrait pas rêver faire dans d'autres circonstances. Puis le jeune... À son prochain cours de karaté, c'était une nouvelle personne. Il faisait un nouveau karaté, c'était un nouveau karatéka, mais c'était une nouvelle personne, puis il avait une nouvelle vision de lui-même. Bien, tout ça, ça n'existe plus dans la vie de tous les jours parce que le surpassement, on est loin du surpassement. On arrête au moindre effort aujourd'hui. Dès qu'il y a un effort, bien là, vous m'opprimez. Puis c'est là qu'on a amené. Fait que c'est sûr que de recommencer avec des immersions en forêt, avec des cours, avec genre les primitifs puis des trucs comme ça, quitte à aller chercher à créer un trend là-dedans, ce serait probablement salvateur pour bien des jeunes qui se redécouvriraient là-dedans.
Et pour des parents aussi, tu sais, moi, j'ai pas eu cet exemple-là d'un père qui m'amène à la chasse, à la pêche. Fait que tu comprends que c'est quelque chose que j'aimerais vivre avec mes enfants, mais j'ai pas la base. Donc, de savoir que je pourrais peut-être accompagner mes enfants ou encore je pourrais envoyer mes enfants dans un endroit où on leur montre la base, puis par la suite, je suis capable d'aller avec eux autres, chasser, pêcher et tout ça, ce serait vraiment mon trip. Mais t'es en train de penser à une émission qu'on avait quand on était jeune, c'était pas La Vallée Secrète?
La Vallée Secrète.
Viens dans ma vallée, avec moi dans la vallée secrète. Non.
Non, ça me dit rien, ça.
Non, c'était pas un film 3X non plus, en passant, là.
Ah, c'est pour ça.
mais c'était une émission qui passait à la télé où c'était des jeunes qui étaient dans un camp de vacances, qui étaient éloignés des parents, puis il y avait des aventures qui leur arrivaient. Je pense que ça s'appelait comme ça, la vallée secrète, mais ça semble ne plus exister, puis ça devrait peut-être revenir, justement pour des enfants qui veulent rester à la maison tout l'été, là, jouer sur les jeux vidéo pendant que les parents sont en train de travailler. On ne peut pas toujours les surveiller. Là. Moi, quand j'étais à la maison, je peux me permettre de couper le Wi-Fi puis dire aux gars, là, c'est samedi, il fait beau dehors, vous allez dehors. Là, ils me regardent. « Hey, qu'est-ce qu'on va faire? » Là, t'es obligé d'aller dehors avec eux autres, puis je le fais avec plaisir, mais là, je m'en vais sortir le ballon de foot, puis là, on se tire le ballon de foot. Puis au début, ils beuglent parce qu'ils sont pas contents, puis après ça, ils sont contents de me faire des beaux tirs avec le ballon de football. Mais ça nous prendrait plus d'activités comme ça, Martin, surtout pour se ramasser avec des gars comme toi, parler de chasse, parler de pêche, apprendre la survie en forêt. Les gars des primitifs, c'est une super de bonne idée que tu as donnée.
Oui.
Pour moi, qui pourrait peut-être être intéressé par faire ce type d'activité-là, c'est-à-dire d'arriver dans un bois puis partir de zéro dans l'espoir de rester là 3-4 jours. Je veux dire, ça peut pas faire autrement que m'intéresser. Quoi qu'il y a de la mouche à ce temps-ci, là. Mais j'étais un peu princesse.
Hey, mon ado!
J'étais un peu princesse, mais c'est le genre de choses que je veux refaire un jour dans ma vie. Je l'avais fait une fois, ça avait pas été un très très grand succès, mais aujourd'hui, je pense qu'à 40 ans, je serais capable de le faire sans aucun problème. Hey Martin, si tu le veux bien, on va s'arrêter pendant quelques secondes. On a encore plein de sujets à jaser, toi et moi, dans les prochaines minutes.
Notre solution, ben, elle fonctionne. Abaextermination.ca ou appelez-nous maintenant au 666-6667. ABBA, une solution définitive.
Cet été, assurez votre confort avec Miville Climatisation. Concessionnaire agréé de Mitsubishi Electric, la thermopompe la plus fiable selon Protégez-vous. Subvention logis vert disponible et obtenez un prêt sur 10 ans sans intérêt. Miville Climatisation, 3 succursales et au miville.ca.
En juin, chez Pièces d'auto économique, profitez de 20% de rabais sur les filtres de marque Pure et Loop. Et nous avons tout ce qu'il faut pour la climatisation et l'entretien de votre véhicule cet été. De grandes marques, des pièces neuves garanties, 8 magasins et un site transactionnel, pièceéconomique.com.
La nouvelle web radio de Boulevard.
Parce que ce que ta voisine de cubicule a fait en fin de semaine passée, tu t'en crois.
La nouvelle web radio de Boulevard, à deux clics du bonheur.
Boulevard 102.1.
Marceau, le soir. La meilleure façon de commencer sa soirée. Marceau, le soir.
MartinBourget.com, il est président du groupe Aventure Chasse-Pêche. Toujours là, mon ami?
Absolument présent.
Avec la technologie, des fois, on se dit, ça va-tu toffer jusqu'à la fin?
Oui, ça arrive, hein? Mais tu sais, ça me fait penser à ce qu'on parlait avant la pause. Il y a une grande question à se poser par rapport à tous les concepts, les préceptes qu'on a avancés. Puis cette grande question-là, c'est, et demain matin, si on fermait la Switch, qu'est-ce qui se passerait? Avec l'héritage qu'on est en train de... Puis, j'oserais dire, là, j'ai emprunté des termes à Stéphane Monnette, là, l'aliénation collective qu'on est en train de créer au niveau de notre société. Et si demain matin, on fermait la switch, qu'est-ce qui se passerait? Dans une ère où est-ce qu'on a outrepassé les capacités de soutien de nos milieux naturels, qu'on n'est pas capable de se fournir par nous autres mêmes, qu'à part peser sur un piton ou demander à Google où c'est que je m'en vais un matin, on n'est pas capable de se débrouiller sur une route, puis on fermerait la switch demain matin. Là, tout ce que tu as initié en disant que ce serait le fun d'apprendre à nos jeunes des moyens primitifs de se débrouiller,
ouais.
Ça prend une autre tournure. D'arriver à prendre les films sur lesquels les jeunes triplent les films de zombies, puis d'apocalypse, puis etc., puis de faire « Et toi, qu'est-ce que tu ferais? » T'es-tu prêt à ça? Là, on ne parle pas de zombies, là. On parle d'un shutdown, là. Demain matin, là, pour une raison X, Y, Z, là, ça s'est passé dans le temps de l'Atlantide, ça s'est passé dans le temps de Sodome et Gomorre, ça s'est passé pour les dinosaures. Et il y a un shutdown demain matin, tu fais quoi? Tu regardes ton téléphone et tu attends qu'il rallume pour caler un skip de dishes ou un DoorDash?
On attend que le gouvernement nous trouve une maison.
Ouais, sauf que dans 20 ans d'ici, ça va être qui va être au gouvernement si je regarde les jeunes qui sont dans un parc et qu'en 20 minutes, à 20 jeunes, ils ne sont pas capables de prendre une décision sur qu'est-ce qu'ils vont faire de leur après-midi?
C'est là.
Dans ce concept-là, ces jeunes-là vont faire quoi sur ma Switch?
Je vais-tu dans les toilettes des filles ou je vais dans les toilettes des gars?
Hey, c'est au Nouveau-Brunswick, ils ont commencé à repeinturer les traverses piétonnières à des couleurs qui sont neutres ou je sais pas trop quoi, là, justement pour respecter la différence. J'étais comme, ben là, il y a une normalisation au niveau de la symbolisation routière.
Ouais.
même si on est prêt à le changer pour 3% d'une population qui veut changer l'ensemble de la réglementation pour le respect de cette... alors qu'on est en démocratie. Ouais, et si on fermerait la Switch demain matin?
Ah, c'est une bonne question qu'on pourrait se poser avec nos enfants. Hey Martin, je veux parler d'un projet scolaire qui s'appelle Mouche en délire.
Oui, ça en est un exemple de jeunes qui font autre chose. Ça. Puis ce projet-là en particulier, Mouche en délire, c'est un projet qui a été amené par une jeune. C'est une jeune qui a allumé la bougie. La jeune Zoé, c'est une élève de Claude Dufour à l'école de la Carrière à Mont-Laurier. Elle est arrivée un bon matin, elle fait comme... Moi, je monte des mouches. Des mouches, là, vous savez, on peut pêcher avec une canne à mouches puis des mouches. Là. Moi, je fabrique des mouches. J'aimerais ça montrer à mes amis comment fabriquer des mouches. Là, c'est le moment où tu fais comme, bah, OK, on va faire une période, on va faire une initiation à comment on monte une mouche. Mais finalement, il y a un éveil dans la classe qui fait comme, ah, wow. C'est sûr que là, tu es dans le secteur de Mont-Laurier. Fait que déjà, tu es dans une municipalité qui est beaucoup plus périurbaine ou même rurale, hein, dans ce cas-là, rurale, où est-ce que les activités de prélèvement sont très présentes. Fait qu'il y a des fortes chances que dans la famille de ces jeunes-là, il y ait beaucoup de chasseurs puis de pêcheurs. Les jeunes allument, mais c'est un sacrement de temps. Ils font comme, oh, yes, ça nous tente d'apprendre à monter des mouches. Mais on ne s'arrête pas une mouche. On part un projet avec... Écoute, ils ont un Facebook. À un moment donné, ils se sont mis à vendre des casquettes du projet. Ils ont reçu des mentions, littéralement. J'en ai une devant moi présentement. Là. Le défi « On s'entreprendre ». Donc, ils ont vraiment mis même une boutique en ligne. Si je ne me trompe pas, on pouvait même acheter leur mouche à un certain moment. Là. Ils ont reçu des petites subventions, là, des petites subventions pour souligner les efforts qu'ils ont mis pour mettre ce projet-là de l'avant. Mais par-dessus ces mentions-là puis ces espèces de diplômes-là qu'ils ont reçus, ils ont réussi à transformer une classe en une petite entreprise où est-ce que tout le monde s'est mis à collaborer ensemble, à apprendre un l'autre, à apprendre sur l'entomologie, donc à apprendre sur les insectes. Hein. Pourquoi je fabrique une mouche? Qu'est-ce que je dois offrir à mon poisson? Je dois comprendre un peu, c'est un leurre, ça doit représenter quelque chose qu'il y a dans la nature, à confectionner ces mouches-là. Si je t'installe là, à fabriquer des mouches, j'espère que tu es un petit peu patient ou que tu as besoin d'un moment de relaxation parce que c'est un moment qui est très... très smooth, très relax. En même temps, ça dénature les jeunes dans leur journée. Ils font quelque chose d'autre et ils font un projet duquel ils peuvent voir un aboutissement à la fin de la période. Donc, à la fin de la période, concrètement, j'ai fabriqué une mouche qui peut attraper du poisson, qui peut nourrir ma famille. Ça a beaucoup, beaucoup de sens.
Puis ça fait travailler leur concentration aussi, là, d'être attentif à quelque chose, à uniquement cette petite chose pendant qu'on est en train de la bâtir pendant 20, 30, 40 minutes. Je veux dire, c'est un exploit pour un enfant d'être attentif pendant toutes ces minutes-là.
Définitivement. Après ça, c'est très formateur parce que tu découvres que si tu exploites un centre d'intérêt, tu peux t'appliquer dans quelque chose. Si tu as un intérêt envers quelque chose, tu peux t'appliquer. D'autres, ils sont allés aussi sur le côté entrepreneuriat parce que les jeunes se sont mis à faire des mouches pour pouvoir les vendre. Ils ont fait un logo, ils ont fait des casquettes, ils ont vendu. Ils ont fait des sorties, littéralement. L'école, le centre de formation professionnelle de Mont-Laurier, les pourvoiries à l'endroit ont commencé à collaborer avec eux autres pour les faire sortir. Les jeunes sont allés attraper des mouches, attraper des poissons. Des mouches aussi, certainement, là. Mais attraper des poissons avec les mouches qu'ils ont conceptionnées, qu'ils ont conçues. Donc, le projet de la petite Zoé, qui au départ était comme hey, moi, j'aimerais ça vous montrer ce que je fais, je fabrique des mouches, est devenu quelque chose qui était un rayon de soleil dans une classe. C'est une classe de cinquième année en passant, là. C'est une classe de cinquième année dont on parle, là. Cinquième année primaire, là, pas secondaire, là, primaire. Donc, on a assis des jeunes de cinquième année. On leur a fait fabriquer des mouches, on leur a fait monter une petite business, on les a fait collaborer ensemble, on les a fait développer une expertise puis de l'intérêt. Puis on a abouti ça en concrétisant. Chaque petit geste se concrétisait par une mouche qui est fabriquée, donc tu vois le bout de ton projet. Puis chaque aboutissement, donc la business, les logos, puis après ça, aller pêcher avec les mouches. Écoute, l'année prochaine, je sais que Michel Terrien, qui est un collaborateur du magazine, Michel Terrien, Chasse Québec, qui est un guide à l'orignal et un formateur ours, orignal, chevreuil, qui est incroyable, mais il va s'associer à ce projet-là pour propulser, pas propulser le projet, mais propulser l'essence du projet, propulser l'idée du projet, parce que on a un souhait quand on voit un projet comme ça, puis on a des discussions comme on avait moi puis toi avant la pause, c'est de voir ce projet-là faire des petits. Ben oui. C'est de voir ce projet-là se répliquer. Parce que là, tantôt, tu vas aussi apprendre que tes récoltes de chasse, et tes récoltes de chasse, que ce soit gibier à plume ou gibier à poil, ben, tu as une partie de ça que tu vas réutiliser pour confectionner tes mouches. On va utiliser le poil de l'orignal, le poil du chevreuil, les plumes de la perdrix, les plumes du dindon. Donc, on va même optimiser l'utilisation des animaux qu'on va récolter pour se nourrir, pour créer des leurres, pour en récolter d'autres. Ça peut aller très loin comme enseignement, puis ça rentre bien pile dans le topo qu'on avait juste avant la pause, de former ces jeunes-là à se créer des moyens pour aller récolter eux-mêmes. C'est en même temps, c'est le rôle dans lequel ils ont été placés sur cette planète-là. C'est leur position dans la biodiversité, d'être des normalisateurs de la biodiversité. C'est notre rôle. Puis on ramène les jeunes. Si ce projet-là peut faire des petits, c'est un grand, grand, grand succès. Si ne serait-ce qu'on verrait 4-5 classes à grandeur du Québec embrasser ce genre de projet-là, ce serait génial. Génial, génial, génial. On va se croiser les doigts forts. Puis moi, bien, de voir un paquet de jeunes qui trippent à faire cette activité-là de A à Z, je me dis, on vient d'être gagnant. C'est plus que de gagner à 6,49.
Ouais, c'est puis est-ce que c'est uniquement des groupes scolaires qu'on accueille?
Dans ce cadre-là, c'est vraiment une classe de cinquième année d'une école en particulier qui ont fait ce projet-là. Maintenant, il existe des organisations comme par exemple Sauver nos braves par la mouche, qui est une organisation à but non lucratif. Là, je ne me souviens pas la nouvelle définition, comment est-ce qu'on dit à but non lucratif ou peu importe, qui, c'est des vétérans, souvent des gens en syndrome post-traumatique, à qui on apprend justement de l'entomologie, à monter des mouches, à pêcher à la mouche. Puis on va jumeler ces vétérans-là à des groupes de jeunes ou à des groupes de femmes pour les initier à la mouche. Eux autres sont joignables quand même assez facilement. Là. Si vous tapez « Sauver nos braves par la mouche » sur Internet, vous allez les trouver quand même assez facilement. Ils font pas mal les miracles et sont très, très, très actifs, je dirais, dans le domaine des autres.
Ah, c'est intéressant, c'est intéressant. Martin, on pourrait jaser avec toi toute la soirée. Malheureusement, je suis limité par le temps. Martin, pour les gens qui veulent avoir accès à votre contenu, à vos émissions de télé, vos podcasts, on peut vous retrouver à quel endroit?
Nouvelle adresse pour avoir tout au bout des doigts. Avant, c'est l'adresse du site web, c'était aventure-chasse-pêche.com. Maintenant, on a raccourci ça parce que le site est bilingue aussi, c'est ACP Nation, ACP Nation. Donc, acpnation.com, ça ouvre littéralement le portail d'Aventure-Chasse-Pêche sur lequel vous avez toutes nos vidéos, nos dates de live. Vous pouvez écouter nos lives là-dessus, vous pouvez écouter tous nos médias, vous pouvez vous abonner au magazine. Gros concours qui s'en vient au niveau de l'abonnement en passant la semaine prochaine. Vous ne voulez pas manquer ça. 3 400 $ de prix, plus deux autres prix. Il n'y a pas loin de 20 000 $ de prix si vous vous abonnez dans les prochains temps au magazine. Sinon, tous les jeudis soirs, 21h sur les ondes de Télémag. On est aussi sur Sportsman Channel et sur Carbon TV. Pour les Français qui nous écoutent, on est sur Zone 300. on est un petit peu partout.
Ben, c'est bon, ben, mais tu vois, je ne l'avais pas vu, ton nouveau site web. Il est de toute beauté. On peut, Aventure Chasse-Pêche est là. Godbrousse, fille de bois aussi est à cet endroit-là. Il y a de la merch aussi. Wow! Belle
bonne
job!
Nouvelle. Ouais. Belle nouvelle, il va être encore plus beau. On le refait au complet.
Ça manque de, si tu veux, un avis là, pour un gars de marketing, ça manque de photos de Kate. Moins de photos de Martin Bourget, plus de photos de Kate.
On le refait au complet, le site. Dans pas grand temps, on vous en remet un nouveau complètement refait en ligne. On va consulter l'équipe, on va dire, bon, Marceau, il dit que ça prend plus de photos de Kate, faire des codes d'écoute. Là.
Exact. Il faut que ça soit vendeur, pas le contraire. Hey Martin, c'est toujours un plaisir. Je te souhaite de passer une super de belle soirée, un beau vendredi, puis un bon week-end à toi ainsi qu'aux auditeurs.
Hey, bonne fête des pères!
Hey oui, bonne fête des pères, c'est vrai, c'est dimanche. On s'appellera pour se le dire parce qu'ils vont peut-être nous oublier.
Ah oui.
Salut!